Les propos qui vont suivre peuvent être difficiles et font état de situations de souffrance. Si une personne de votre entourage ou vous-même pensez au suicide, appelez le 3114, numéro national de prévention et d'écoute.
J'essaie de comprendre en fait ce qui amène le jeune frère qui sont obligés de faire Pensez les suicides.
Bienvenue dans la série PLS, Pensez les suicides. Issue du séminaire de recherche organisé depuis 2024 sur les approches critiques de la mort volontaire, cette série vise à réfléchir aux pensées contemporaines du suicide. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons explorer la thématique de la fin de vie depuis l'analyse de celles et ceux qui s'organisent autour et militent pour. Dans cette direction, nous revenons sur les militants qui s'activent pour aider à mourir tout en le faisant, mêlant ainsi les recherches autour des pratiques associatives, des institutions et de la santé publique. L'aide active à mourir signifie, de manière générique, tout acte ayant pour finalité de provoquer la mort d'une personne jugée admissible pour et à sa demande, une expression à laquelle on lie ordinaire d'autres pratiques, comme l'euthanasie ou le suicide assisté. Toutes ces actions sont par ailleurs interdites en droit français, mais d'usage dans d'autres pays, à l'image de la Belgique, de l'Espagne ou du Luxembourg, pour ne citer que quelques pays frontaliers. De fait, aucune statistique nationale n'existe pour renseigner ces activités considérées ici comme illégales et clandestines alors qu'elles se réalisent. Chez les penseurs et penseuses de la fin de vie, les réflexions s'engagent autour de l'utilisation de notions médicales selon les différents acteurs du champ, comme avec l'incurabilité de la maladie ou le niveau de dépendance de la personne, ou encore la souffrance qui ne peut être maîtrisée, donnant là quelques éléments de cadrage pour le débat public. Maëlys Posito-Tourier, socio-anthropologue, note dans un rapport de 2025 que l'assistance à mourir peut être appréhendée comme un mouvement social émergent au XIXe siècle. Ce mouvement social de la mort demandée est devenu actif politiquement dans les années 1930 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Avant de préciser, la Fédération internationale des associations pour le droit de mourir dans la dignité a été fondée en 1980 et regroupe actuellement 51 organisations issues de 26 pays. Cependant, en France, si l'ensemble des sondages donne à chaque fois comme résultat une très large majorité pour la mise en place de l'aide active à mourir, reste à comprendre comment, dans un contexte spécifique non favorable à sa réalisation, les militants agissent sur plusieurs fronts, avec d'une part l'entraide pour celles et ceux qui font appel à elle et eux pour en finir avec la vie, et d'autre part, le politique pour militer et obtenir des changements législatifs. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Lorena Toupet, docteur en sociologie. Sa thèse, soutenue en 2023 à l'Université de Lorraine au laboratoire Lorrain de sciences sociales, s'intitule « La mort sous le manteau, analyse sociologique de deux associations militant pour une mort choisie en France ». Au travers d'une ethnographie et d'une enquête par questionnaire, la sociologue révèle ainsi les acteurs, les discours et les dynamiques de ces actions clandestines.
Alors, pour débuter, Lorena Toupet-Rojas, pouvez-vous nous indiquer ce que vous entendez par « mort choisie » et présenter les associations que vous avez observées pour votre terrain ?
Oui, bonjour. J'ai préféré parler de « mort choisie » parce qu'il y a plein de termes qui existent, « mort volontaire »,« suicide ». Et en fait, ces termes sont pas utilisés par les membres, par les personnes auprès desquelles j'ai enquêté de la même manière. Et en plus de ça, l'ensemble de ces termes ont des ancrages historiques qui ne sont pas forcément neutres en fonction des contextes dans lesquels ils sont utilisés. J'ai préféré parler de mort choisie parce que c'était une expression qui paraissait faire le plus large consensus en termes de neutralité dans les écrits que j'avais pu lire et les entretiens que j'avais pu faire avec mes informateurs et informatrices. Et ça aussi appuyait la notion de choix, mort choisie. La question un petit peu de la mort délibérée pouvait rentrer dedans. Enfin bref, choisie permettait de canaliser, catalyser un petit peu l'ensemble des manières de concevoir la notion de suicide assisté ou de mort volontaire. Enfin voilà, mort choisie paraissait le mieux convenir. J'ai travaillé sur deux associations qui militent pour une mort choisie en France, l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et Ultime Liberté, parce que lorsque j'ai commencé ma thèse, il y avait trois associations qui existaient, les deux premières, et AA, vivre sa fin de vie, qui n'existe plus et a cessé d'exister pendant ma thèse. Et pendant ma thèse, elle s'est créée encore une autre association, Le Choix citoyen pour une mort choisie. Mais du coup, j'avais déjà très largement commencé mon travail. Donc pour AA, vivre sa fin de vie, c'était une association qui n'avait pas vraiment d'existence en tant que telle. En fait, c'était très centralisé autour de son créateur. Et pour Le Choix citoyen pour une mort choisie, ça s'est créé en 2018, si je ne m'abuse. Et bon, voilà, ça ne servait pas plus que ça, mon travail de recherche, d'intégrer cette association-là. Donc je suis restée sur les deux associations qui ont existé pendant tout le long de ma thèse.
Et d'un point de vue un peu historique, ces deux associations existent depuis longtemps. Est-ce qu'elles ont un ancrage dans le paysage de la mort choisie en France depuis longtemps, ou est-ce que c'est des créations assez récentes?
Alors, pour l'une, c'est une création qui date de 1980, de mois de mai 1980, par Michel Landa, qui était un poète et écrivain américain, qui a concentré déjà des mouvements qui commençaient à exister en France déjà dans les années 70, enfin, post-guerre, Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait Collectif Mort Douce, en fait. Voilà. Et il y avait, en plus de ça, pas mal de mouvements médiatiques pour mettre un peu la question de l'aide à mourir, de la mort choisie, sur le devant d'une scène médiatique qui ne s'était pas encore vraiment saisie de ce sujet-là. Et donc l'ADMD a commencé dans les années 80 avec très clairement la volonté d'aider ses adhérents à se suicider. Et d'ailleurs, parmi les membres fondateurs, enfin assez éminents, on va dire, de cette association-là, il y avait aussi beaucoup de femmes qui militaient pour le droit à l'avortement. Et donc l'aide à mourir et l'avortement sont assez liés dans la construction de cette association, parce que ça couvre tous les aspects de droit à choisir pour soi. Le fondateur est décédé un an plus tard d'un cancer du pancréas, je crois. Il s'est suicidé. Et en fait, l'ADMD avait commencé à publier à destination de ses adhérents un petit prospectus sur quels médicaments associer pour mettre fin à ses jours sans douleur, on va dire. Dans le même temps, à l'ADMD, il y avait deux journalistes qui ont travaillé pour l'ADMD puisqu'ils publiaient des articles dans le journal Le Monde sur les questions de mort choisie et de suicide, etc., qui ont publié en 82, je crois, ou 84, mais je crois que c'est 82, Suicide mode d'emploi, qui est un ouvrage assez conséquent, qui est interdit en France, qui est en fait aussi un pamphlet sur la question du suicide et du droit de choisir de mourir, qui refait un petit peu l'histoire, le côté un peu thanatocrate du médecin, etc., mais de manière assez violente. Enfin, ils y vont de manière très militante, quoi. Ils mâchent pas leurs mots. Et dans cet ouvrage, il y a aussi tout un ensemble de manuels d'explications sur comment se suicider avec des médicaments, comment se procurer une ordonnance de tel médicament, etc. Et on a retrouvé cet ouvrage sur la table de chevet ou à côté de personnes qui se sont suicidées avec l'aide de cet ouvrage. 1984-85, procès. Procès contre les auteurs de ce livre, pas contre l'ADMD. Et 86, le fameux texte pour l'émergence des soins palliatifs en France. 87, interdiction de la publication au suicide, loi. Et ensuite, 90, création et fondation des soins palliatifs en France. 87-90, ça a mis quelques années à se faire. Et l'ADMD, pendant ces 10 premières années-là, avait vraiment orienté son action auprès de ses adhérents pour permettre l'aide à mourir, se suicider chez soi, ne pas faire appel à son médecin, etc. Revirement de situation avec cette loi de 87 où il est interdit de faire de la publicité pour le suicide. C'était devenu du coup une pratique un petit peu plus camouflée, on va dire, et puis un peu sporadique comme ça, entre adhérents qui connaissaient ou adhérents du début, on va dire. Mais en tout cas, l'ADMD a connu une explosion d'adhésion sur ces 10 années-là. Ils étaient 3 000 la première année, 12 000 4 ans plus tard. Enfin, c'était vraiment une exponentielle, le nombre d'adhérents dans cette association dans les années 80-90. Aujourd'hui, ils sont 75 ou 76 000. C'est une très, très grosse association au regard du paysage associatif français. Donc, cette association-là, années 90, change un petit peu son discours. Il n'est plus trop question du suicide. Enfin, on n'en parle plus trop. Et pour glisser sur les années 2000 avec l'euthanasie. Donc, l'euthanasie, c'est un tiers qui vous donne la mort. Ce n'est plus vous-même, à votre demande, évidemment. Et là, l'association se transforme beaucoup au point de fonctionner comme un lobby politique, un parti politique. Il ne s'agit plus de s'adresser à ses adhérents pour les aider, avec la création, imaginons, de cliniques de la mort douce, ou etc., qui étaient des discours qui étaient construits, des réflexions philosophiques sur la fin de vie qui étaient construites dans les années 80. Début des années 2000, c'est terminé. On produit un discours unique qui est contrôlé et centralisé, et on fonctionne comme un parti politique. L'objectif étant de s'adresser à des acteurs considérés comme légitimes pour pouvoir obtenir au moins un début de loi sur l'aide à mourir. 2009, de la cuisse de Jupiter naît Ultime Liberté. Ultime Liberté est une association qui est donc née d'une scission au sein de la DMD, conflit de personnes, en gros. Et Ultime Liberté a repris la place laissée par la DMD des années 80. Pour ses adhérents. Et donc, Ultime Liberté, on pourrait la considérer comme une petite association parce que très discrète. Très discrète, et on ne se rend pas trop compte un petit peu où elle est en France. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adhérents répartis sur tout le territoire, comme ça, on ne se rend pas trop compte. Mais c'est, je crois, actuellement entre 5000 et 6000 adhérents. Et Ultime Liberté a, pour elle, les seuls acteurs légitimes de la fin de vie, ce sont ses adhérents eux-mêmes. L'objectif de cette association, c'est de permettre l'aide à mourir, de respecter les choix de ses adhérents, en fait, quitte à organiser un suicide assisté clandestin en France, quitte à sortir du cadre légal. Évidemment, avec le consentement des personnes, toujours.
Alors justement, est-ce que vous avez des données de qui sont ces personnes adhérentes des associations ?
Alors, en termes de données, c'est un peu compliqué à avoir, puisque ça reste quand même discret, c'est pas des chiffres faciles à obtenir, même si, étonnamment, dans ma recherche, j'ai pu diffuser un questionnaire et j'ai pu obtenir 2702 réponses valides, ce qui est quand même conséquent, je trouve, pour une recherche en sociologie, surtout sur cette thématique-là. La population. Par rapport au paysage associatif français, les femmes représentent environ 45-46% des effectifs associatifs. ADMD, Ultime Liberté, on est sur plus de 75%, enfin presque 75%. Trois quarts de femmes, c'est énorme. Moyenne d'âge, on est plutôt sur du 70-71 ans à l'ADMD, plutôt sur du 75 ans à Ultime Liberté, bon, 72 ans et demi en gros. Et en termes de profession, enseignants, médecins, infirmiers, employés, majoritairement. Mais fonction publique et cadre intellectuel. Très homogène, du coup, en termes d'associations. Les associations sont aussi plutôt riches, plutôt très riches au regard du reste du paysage associatif. Hein. C'est plusieurs millions à la DMD qui sont thésaurisés. Sur Ultime Liberté, on est à plutôt plusieurs dizaines de milliers, mais... ça reste très riche par rapport aux autres associations. On a du coup plusieurs hypothèses hein, qui peuvent expliquer pourquoi les femmes sont surreprésentées. Et alors d'abord, on peut se dire les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles sont veuves. Sauf qu'en fait, quand on regarde la proportion du veuvage, ça n'explique pas autant de femmes dans ces associations. Et quand on regarde aussi dans mon questionnaire, êtes-vous à jour de vos cotisations ? Les hommes sont très à jour de leurs cotisations. Il n'y a pas de... C'est pas, par exemple, quelqu'un qui serait décédé dans l'année. Parce que, bon, des fois, certains peuvent répondre pour les adhérents qui ne sont plus là. Enfin, c'était pas trop... Voilà, la question du veuvage n'était pas si significative que ça pour expliquer un tel engouement des femmes. Et ce serait plutôt l'idée d'un retour du care. Donc, le care, en termes les femmes... Et ça, c'est basé sur les travaux d'Yvonne Verdi en 1976. La femme qui fait et la laveuse, les femmes ont des rôles centraux dans les passages entre la vie et la mort, à la naissance et au décès. Et on retrouverait potentiellement chez les femmes qui adhèrent à ces associations-là le fait qu'elles ont été là et qu'elles ont vécu le décès et la fin de vie de proches. pas forcément de leur mari, mais de leurs parents, de leurs frères et sœurs, parfois des enfants aussi.
On l'a compris en vous écoutant, des femmes surtout, et vous disiez aussi des femmes de classe davantage favorisées, cadres ou fonctions publiques. Est-ce que vous avez aussi des clés d'analyse pour expliquer cet engagement plus important chez les classes favorisées?
Alors, déjà, il y a des inégalités sociales de santé qui sont que les cadres meurent moins vite que les ouvriers. Donc, ils ont plus de temps pour se poser la question. Ils passent plus de temps en retraite. Ils ont des maladies qui apparaissent plus tard. Et donc, ils ont ce temps-là qui leur est favorable. Il y a aussi le fait que, parce qu'on est cadre ou qu'on a été marié à un cadre, parce que toutes les femmes n'ont pas à travailler, mais ont quelque part profité du statut de leur mari, évoluer dans des milieux sociaux dans lesquels c'était des discussions qui pouvaient être entendues et entendables dans certains cercles. Ce qui est plus difficile ou plus tabou dans d'autres contextes ou d'autres catégories socio-professionnelles ou sociales. Donc, c'est un sujet de riche et d'intello, en fait. Mais même historiquement, quand on regarde les travaux de Georges Minois sur le suicide, ou qu'on écoute, qu'on reprend et qu'on relit les travaux d'Albert Bayet, publiés en 1922 et republiés en 2007, la question de la mort choisie est une question de bourgeois émancipés de la religion. C'est pas neutre non plus. Et même des philosophes de l'époque antique qui militaient aussi pour ces... Enfin, qui militaient, qui pensaient les questions du suicide, du droit de choisir pour soi, etc. Ça parlait à une certaine catégorie, même si c'est pas vraiment transposable aujourd'hui, puisqu'il y a plus de 2000 ans d'écart. Mais on voit que c'est une question qui a toujours fait partie de l'élite, d'une manière ou d'une autre, avec des tendances. Minois, il le montre très bien, et Bayet aussi. Il y a des moments où c'est la classe bourgeoise conservatrice qui va prendre le dessus sur ces questions, et d'autres moments où ça s'inverse. Et on a eu un courant assez favorable à l'émergence de ces questions au niveau mondial dans le début des années 1900. La guerre est venue un peu freiner ça, mais ça fait 100 ans qu'on a un courant plutôt favorable sur le plan idéologique à l'émergence de ces réflexions-là, partout dans le monde, enfin dans le monde occidental. Voilà, il y a des ancrages culturels, historiques et sociaux. Et donc, ces femmes d'un milieu favorisé bénéficient de ça, en fait. Elles font juste partie de la bonne catégorie, pour le dire simplement.
Mais alors, c'est quand même un peu paradoxal, entre guillemets, où il y a ce fameux paradoxe du suicide qui alloue plus de suicides aux hommes et plus de tentatives de suicide aux femmes. Et alors là, on aurait un peu une espèce d'effet contraire où dans une association qui milite pour la mort choisie, il y a une surreprésentation des femmes par rapport aux hommes. Et du coup, on a un peu ce paradoxe inversé, quoi. Mais ce que vous dites, ce serait qu'il y aurait plus... Enfin, que les femmes qui militent dans ces associations seraient plus là en tant que presque passeuse ou entre guillemets qui pour accompagner les autres plutôt que pour elle-même.
Ça fait partie d'un autre résultat qu'effectivement on peut comprendre comme ça. Les femmes, celles qui adhèrent, ont des ancrages biographiques, un terreau idéologique issu de leur parcours biographique assez fort, dans le sens où ce sont des femmes qui ont été au planning familial, qui ont milité pour le droit à l'avortement, qui ont été faiseuses d'anges pour certaines. Donc il y a ce côté idéologique qui peut être pensé comme une continuité biographique dans la vieillesse. Il y a d'autres explications qui sont que les femmes adhèrent au moment d'un tournant biographique qui n'est pas forcément le leur personnellement, mais celui de leur mari. Donc elles vont chercher des solutions pour être dans leur rôle de pourvoyeuse de soins. Et quand ces solutions, c'est adhérer à une association parce que je ne veux pas vivre en EHPAD, je ne veux pas me voir partir, je ne veux pas aller en soins palliatifs, imaginons, eh bien, ça peut aussi expliquer cet engouement, se dire, ben, maintenant que je suis seule, parce qu'il y en a quand même certaines qui sont veuves, maintenant que je suis seule, qui est-ce qui va m'aider, moi? Et donc, je me tourne vers une association en me disant que l'association m'aidera le moment venu. Et c'est là aussi toute cette question de la proximité d'ultime liberté qui s'adresse à ses adhérentes et adhérents, c'est on est là pour vous soutenir à ce moment de vie-là, en fait. Donc il y a plusieurs manières de comprendre ces adhésions.
écoutez Penser les suicides, le podcast.
Si on sort du cadre un petit peu national, est-ce que vous avez des éléments sur cette situation dans d'autres pays frontaliers, par exemple ?
Alors, les pays, le Centre national soins palliatifs fin de vie édite régulièrement un atlas de l'aide à mourir dans le monde et des soins palliatifs dans le monde. Mais vous avez, en gros, en termes de pays frontaliers, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, la Suisse et le Portugal, je crois qu'ils sont en cours, et l'Espagne. Donc la Suisse, c'est suicide assisté. C'est vous-même qui vous injectez ou qui buvez un produit, enfin un cocktail de produits. Et la Belgique, grosso modo tout le reste, c'est de l'euthanasie. C'est un tiers qui vous injecte un cocktail de trois produits qui vous endort, qui fait s'arrêter le cœur et qui fait aussi s'arrêter toutes les douleurs. Voilà. Mais en gros, là, une fois qu'on vous a endormi, vous vous réveillerez. Enfin, vous êtes déjà mort, quoi. Pas besoin de ces deux autres produits. En général, les doses sont suffisamment élevées. Par exemple, au Luxembourg, il faut être... ces pays ont des conditions d'accès. Hein. Au Luxembourg, il faut être ressortissant luxembourgeois, par exemple, pour pouvoir y avoir accès. Ou alors, avoir un enfant qui travaille au Luxembourg et qui, sous cas exceptionnel, peut vous permettre d'accéder à cette loi luxembourgeoise. En Suisse, vous payez, vous adhérez à une association et vous payez entre 8 et 12 000 euros pour avoir droit à un suicide assisté. Vous passez un test avec un psychiatre qui évalue vos capacités cognitives et puis on vérifie aussi que vous n'êtes pas sous influence, donc qu'on ne vous pousse pas à vous suicider pour récupérer vos biens, par intérêt. L'objectif étant que le suicide doit être désintéressé par tout le monde, quoi. Voilà. Et on vous donne une date. Et si vous n'êtes pas prêt à cette date-là, ou si vous avez un état qui s'est dégradé et que vous n'êtes plus dans les cadres de la Suisse pour le suicide assisté, vous ne pouvez pas en bénéficier. Si vous n'êtes pas prêt à cette date-là, il faut la reporter, mais peut-être que votre état va se dégrader trop vite et vous ne serez plus en capacité d'avoir accès à ça. Donc c'est un peu compliqué, la mort sur date, la mort sur commande n'est pas évidente à gérer côté Suisse. Et puis, faut voir aussi, les ancrages culturels d'un pays à l'autre sont complètement différents. Et donc, notre rapport au temps en fin de vie et à la mort est complètement différent. Donc, des fois, un Français peut être plus embêté avec cette histoire de date qu'un Suisse qui a des ancrages culturels autres. En Belgique, il faut voir et avoir l'aval de deux médecins qui sont d'accord donc, pour vous aider et que votre cas soit désespéré. Mais vous pouvez demander à être euthanasié, ce qui vous permet, par exemple, de bénéficier d'une opération risquée. Si l'opération est très risquée, peut-être que vous allez vous dire « je ne vais pas la faire si je ne peux pas être euthanasié, si jamais ça rate ». C'était l'argument belge de l'aide à mourir, c'est une perspective de vie. Bénéficier d'une euthanasie est une perspective de vie dans le sens où, dans certains cas, on accepte des soins qui sont très risqués, qui ont beaucoup de chances de ne pas fonctionner. Donc voilà, c'est en ce sens-là la perspective de vie. Vous avez aux Pays-Bas l'aide à mourir, l'euthanasie, c'est le médecin de famille qui s'en occupe. Parce que ils ont encore une autre conception du soin et c'est le médecin de famille qui accompagne jusqu'au bout l'ensemble de ses patients. Après, vous avez les États-Unis. Bon, là, c'est un peu le bazar parce que selon les États, c'est pas la même chose. Mais il y a Oregon, Hawaï, bref, il y en a plusieurs. Là, vous avez, selon les États, différents types d'accès. Par exemple, en Oregon, c'est une ordonnance que vous allez chercher tout seul à la pharmacie et vous vous suicidez tout seul chez vous. Si ça rate, c'est vous que ça regarde, quoi. C'est un petit peu embêtant parfois pour les patients. Au Québec, on a aussi accès à l'euthanasie sous conditions. Ça fait pas mal de bruit parce qu'il y a des maladies qui sont très invalidantes, très handicapantes, mais qui ne sont pour autant pas mortelles ni considérées comme graves. Et donc des personnes qui atteignent un certain âge et qui ont en plus de leur maladie handicapante des stigmates de vieillesse qui viennent se rajouter, vont demander une aide à mourir mais n'y auront pas accès parce que pas en fin de vie. Donc c'est assez compliqué. Et on a par-dessus tout ce paysage brosser rapidement les fondements philosophiques du droit qui encadrent ces pratiques-là. En France, par exemple, le fondement philosophique du droit, c'est on sauve la personne à tout prix d'abord, et après on regarde ses désirs. C'est là tout le problème avec les directives anticipées. Si j'écris dans mes directives anticipées « je ne veux pas être ranimé » et que je me fais renverser par une voiture dans la rue, eh ben je serai d'abord ranimé et après on verra ce qui se passe, quoi. Alors qu'aux États-Unis ou au Québec, si vous mettez dans vos directives anticipées « je ne souhaite pas être ranimé » et qu'on vous ranime quand même, c'est la faute du médecin. Donc les ancrages philosophiques du droit de ces lois sont profondément différentes d'un pays à l'autre. Et ça participe de la complexité du traitement du sujet selon les pays, en fait. C'est que non seulement il y a une question politique, culturelle, etc., mais en plus, vous avez des fondements philosophiques qui font l'essence du cadre légal de votre pays de référence.
Et vous, comment vous avez fait pour vous intégrer dans votre terrain en particulier ? Est-ce que vous avez été adhérente ou militante, vous aussi, pour la mort choisie ?
Alors, moi, j'ai travaillé mes deux mémoires de master sur les soins palliatifs et l'accompagnement en soins palliatifs. Et à l'issue de ces deux mémoires de master, je voulais traiter la question de la dignité humaine en fin de vie, puisqu'il y avait, comme je le disais tout à l'heure, on utilise la dignité beaucoup pour justifier ses pratiques et dans tous les sens. Donc, j'avais envie de travailler sur ça, mais du côté militant pour une mort choisie, parce que déjà, j'avais vu un peu le milieu médical et palliatif, et ça me paraissait pas mal d'avoir bossé 2 ans sur eux. Mais aussi sur un côté plus pratique, quand on fait une recherche de sociologie dans le milieu médical, ou sur le milieu médical, c'est très très dur d'accès. En fait, c'est horriblement difficile. Et en Master 2, quand je faisais des observations sur les relations entre les patients et les soignants en soins palliatifs, les soignants pensaient que j'étais là pour faire un audit de pratique et faire sauter des postes. Il y a beaucoup d'appréhension de la part du milieu médical quand on vient travailler sur eux. Il y a l'idée qu'on pourrait remettre en question leurs pratiques, qu'ils font mal les choses, alors qu'ils s'investissent, qu'ils même se surinvestissent dans les relations avec leurs patients, qu'ils ont envie de faire bien, puisque ce sont souvent des métiers qu'on a choisis par passion, des métiers de cœur. Et on est en plus, ces soignants sont généralement pas très bien traités à l'hôpital. Donc ils subissent aussi beaucoup de violences institutionnelles. Et à venir mettre un élément perturbateur, qui est un sociologue, au milieu de tout ça, eh ben, c'est pas très confortable. C'est pas confortable pour le sociologue, c'est pas confortable pour les soignants. Donc j'avais écarté cette piste en me disant « trop compliqué, va voir les militants et puis tu verras ce que ça donne ». Et donc je suis allée voir les militants de la DMD qui étaient dans une ville à côté, et ils ont été étonnamment très ouverts. Enfin, et moi accueillie, franchement, j'ai même... Alors c'est drôle parce que j'ai passé des tests, j'ai été mise à l'épreuve pour rentrer dans, un petit peu plus dans, parmi ces adhérents. Donc celui qui était le plus investi du groupe a accepté de faire l'entretien avec moi et a dit aux autres « c'est bon, elle est de confiance, on peut y aller ». Enfin voilà, c'était assez marrant. Et ce sont ces adhérents de la DMD qui, à un moment donné dans l'entretien, et c'était pas neutre parce que c'était un ancien éducateur spécialisé qui voulait aider la jeune. Alors ça aussi, c'était très confortable pour moi d'être une jeune femme qui travaille sur un truc de vieux. Et donc, il a voulu m'aider et il m'a expliqué pendant un très long entretien, plus de 3 heures, dans lequel il y a eu des larmes, etc. Enfin, il y a eu une vraie relation de confiance qui s'est créée, tissée avec cet informateur qui m'a dit « Mais tu sais, on est en train, il y a une autre association, peut-être je vais leur parler de toi, mais seulement si ça t'intéresse. Hein. » Puis après, c'est pas dit hein, qu'ils t'acceptent, etc. Et en fait, j'ai été cooptée. J'ai été cooptée par les membres de mon terrain sur la dignité à la DMD. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai complètement changé mon projet de thèse. Et je me suis orientée sur le suicide assisté clandestin, le militantisme pour une mort choisie. Il a fallu que j'adhère à l'association Ultime Liberté, il a fallu que je devienne une accompagnante à part entière, puisque le droit d'accès à l'information est très cloisonné. On ne peut pas avoir accès à tout selon le statut d'adhérent que l'on a. Si on est juste un adhérent partisan ou sympathisant, on ne va pas avoir accès aux mêmes informations que l'adhérent qui est complètement investi, celui qui aide concrètement au suicide. Donc, il a fallu, à partir de ce moment-là, que je porte cette double casquette. Donc, je me présentais en tant que chercheuse et adhérente.
Mais vous parliez de votre engagement, de cette double casquette, et un peu plus tôt de la question de la clandestinité. J'imagine que déjà, pouvoir gérer cette double casquette, chercheuse, militante, mais même si vous avez dit que ça se passait de manière assez fluide et que ça vous a permis d'avoir spontanément plusieurs entretiens, cette question de la clandestinité, de la légalité, de cette frontière floue, parfois, comment vous la gériez? Est-ce que c'était quelque chose qui était difficile ou, comme les entretiens, c'était des choses qui se passaient de manière assez fluide?
Alors, la plupart du temps, c'était plutôt facile. Sauf deux, trois petits événements un peu plus malaisants. Donc, Ultime Liberté donne des informations en interne à ses adhérents pour se procurer un produit illégal en France pour se suicider et maquiller ce suicide en mort naturelle auprès d'un médecin qui cocherait le certificat médical. Pour se procurer ce produit, il faut passer par un peu le darknet, etc., des filières alternatives absolument pas légales dans aucun des pays dans lesquels personne se fournisse. Il se trouve que, passé un temps, les produits transitaient par les États-Unis. Les États-Unis, les douanes américaines, ont fait remonter au parquet de Paris un potentiel trafic de drogue sur son territoire. Trafic de drogue qui était en fait le trafic des adhérents d'Ultime Liberté, quoi, qui s'est mué en perquisition nationale à 6h du matin chez tous les gens qui avaient commandé le produit de l'assaut. La mise en examen par la suite de l'ensemble des membres du conseil d'administration. Il se trouve que 10 jours avant cette intervention nationale, j'étais membre du conseil d'administration, car c'était une condition pour que je puisse diffuser mon questionnaire auprès des adhérents d'Ultime Liberté. Il ne s'est rien passé pour moi, mais quand j'ai appris ça, j'ai eu très très peur de me faire saisir mes données de thèse. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est bête, mais j'ai enlevé mon nom de ma boîte aux lettres. On a des réactions primaires des fois, on ne se rend pas trop compte. Et j'ai pris tout, absolument tout ce que j'avais. Tous les papiers, tous mes carnets de notes, les entretiens que j'avais imprimés, mes clés USB où il y avait tout mon boulot dessus. J'ai tout mis dans un sac, je suis allée chez une copine, je lui ai dit « garde-moi ça dans ta cave et on en reparle dans quelques mois ». Mais c'est vrai que ça s'est joué à 10 jours, quoi. Enfin, mais vraiment. À 10 jours près, j'étais en garde à vue. Enfin, parce que mon nom, il est partout dans cet assaut, de partout. Voilà, donc le terrain est une mise à l'épreuve perpétuelle, surtout quand il va flirter avec les frontières du légal. Une mise à l'épreuve aussi sur le plan émotionnel, par exemple, parce que c'est pas neutre de rencontrer plusieurs dizaines de personnes âgées qui pourraient être mes grands-parents et qui se mettent à pleurer.
En fait, vous avez quasiment, aux yeux de la loi, un aveu de meurtre. Donc, comment on fait quand on possède, donc, ce que vous disiez aussi, ce devoir un peu en tant qu'agent de la fonction publique de dire et de témoigner de tout ce qui pourrait être illégal? Comment on fait, voilà, pour gérer un peu tout ça? Et parce qu'il y a même, au-delà du conflit légal, hein, peut-être un conflit personnel de « je possède des informations illégales aux yeux de la loi, comment je fais à la fois pour protéger mes enquêtés, à la fois pour me protéger moi et à la fois pour me protéger moi d'un point de vue émotionnel, mais aussi au regard de la loi ?»
Alors, ma thèse n'était pas financée. Donc, je n'étais pas fonctionnaire de l'État. Donc, je ne suis jamais vraiment tombée sous le coup de cette loi-là, dans le sens où, même si j'ai eu des contrats à l'université, hein, mes périodes d'enquête et se faisait entre deux contrats à l'université. Donc, j'étais jamais, quand je recueillais ces informations-là, j'étais pas en poste. J'avais pas d'emploi. Donc, j'ai moyenné comme ça. Je me suis dit, on va faire comme ça. Et ensuite, que ce soit un aveu de meurtre, que ce soit aller parler devant la famille d'une dame qui s'est suicidée à ses funérailles, parce que j'ai fait ça aussi pendant ma thèse. Je me suis mise à la place de l'accompagnante. On ne va pas trop laisser le choix, ceci dit. Mais on vient aussi tester et considérer, comprendre au plus profond de soi, en tant qu'humain, ce que vivent ces gens qui accompagnent la fin de vie et la mort. Qu'est-ce qu'ils vivent, ces adhérents? Comment on peut comprendre des détresses, des épuisements, des inconforts, si on ne les vit pas soi-même? Je veux dire, on est tous capables de dire « Ah, bah, il fait froid, c'est pas très agréable », parce qu'on a tous expérimenté le froid. Mais qu'est-ce que j'aurais pu comprendre de l'aveu de meurtre de ce monsieur envers sa femme si j'avais pas déjà pu tester ce que c'est l'inconfort de l'illégal? Alors, en restant le plus éloigné possible, évidemment, hein, en présentant toujours la casquette de chercheuse, en me positionnant physiquement dans les espaces, un petit peu en retrait, pour bien montrer que je ne fais pas partie de l'action. En essayant aussi des mises à distance géographiques, en passant plusieurs mois. J'ai l'avantage de l'université et du fait de ne pas avoir de contrat, c'est de pouvoir voyager quand même assez souvent pour physiquement ne pas être là dans ces assauts. Donc ces mises à distance régulières et variées permettent aussi de pondérer l'inconfort que ça peut être d'être dans l'illégal. Après, il y avait des frontières que je m'étais données. Je n'ai jamais assisté au suicide de quelqu'un, par exemple. Je ne voulais pas être présente à ce moment-là. Déjà parce que, voilà, émotionnellement, c'est trop fort. Et puis, mais légitimement, j'ai rien à faire là, en fait. C'est pas à moi de donner la main à quelqu'un qui veut mourir. Enfin, j'avais de base assez bien distingué les choses, mais certains accompagnants restent là. Ils sont présents. Et c'est eux qui vont cacher les clés ou les mettre dans la boîte aux lettres. Enfin, il y a tout un processus réflexif de comment on fait pour faire découvrir le corps après, etc., auquel je n'ai pas participé, parce que je ne voulais pas rentrer là-dedans non plus. Je trouvais que c'était déjà suffisant comme ça, il n'y avait pas besoin d'en rajouter trop. Mais cette négociation avec soi-même, moi je l'ai surtout faite par la prise de distance géographique et le temps. Laisser du temps et de la distance pour réussir à gérer ce rapport à l'illégal a été pour moi en tout cas quelque chose qui a fonctionné. Ces terrains qui sont assez rares ou un peu exceptionnels, il n'y a rien qui préexiste en fait. On est un peu obligé de faire avec qui on est nous en tant que personne. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? On sait aussi déconstruire sa posture sociale et ses ancrages sociaux et pour prendre cette distance-là. Le rapport que les autres ont eu avec nous, les rapports de domination, de distanciation, de proxémie, etc. Tout ça, réfléchir sur tout ça aide à déconstruire l'illégal et à s'y sentir plus en accord, en tout cas, moins gêné.
Merci beaucoup, Lorena, c'était passionnant.
Merci.
Merci à vous.
Pensez les suicides.